La revue de presse avec Emmanuel Grabé. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
La guerre s'affiche en une de Libération ce matin.
Alors que beaucoup de quotidiens sont en décalage avec l'actualité, eux qui spéculaient hier au moment du bouclage sur l'intensité et le moment choisi pour les frappes américaines, françaises et britanniques en Syrie, Le Figaro et Le Monde notamment. Libération consacre son titre principal ce matin à la guerre sans fin qui se livre au Mali. Le quotidien étire son récit sur quatre pages qui s'ouvre par ce pronostic du chef d'état-major des armées françaises, François Lecointre. Je ne pense pas, dit-il, qu'il soit possible de régler le problème au Mali en moins de 10 à 15 ans, si tant est que nous le puissions. Le nord du pays reste un no man's land périlleux, relate la journaliste Maria Malagardis, où soldats français de la mission Barkhane et casques bleus de la MINUSMA combattent ce qu'elle qualifie d'hydre djihadiste qui sans cesse refait surface dans une zone où l'ennemi est parfois invisible. Les mines, armes du pauvre, juge un envoyé spécial de Libération, des mines disséminées sur les routes des blindés de l'armée et qui ont fait 7 morts parmi les soldats français depuis le début de l'opération Barkhane. Mais ce sont surtout les populations civiles qui en sont victimes, rappelle l'envoyé spécial Pierre Alonso. Des dizaines de civils en sont morts rien que ces dernières semaines.
Pas de morts ni de combats dans cet article du Parisien, mais la rhétorique militaire s'affiche en gras, page 5.
Le nouveau patron de Force ouvrière s'en va en guerre, titre qui relate la pique de Pascal Pavageau, futur numéro 1 du syndicat, contre son prédécesseur Jean-Claude Mailly, accusé d'avoir des positions trop molles vis-à-vis du gouvernement. Bisbille syndicale aussi dans Libération, à la CFDT cette fois. Comment sortir de la crise à la SNCF? Les positions entre le leader du mouvement et sa base sont divergentes. Libération parle d'un problème d'aiguillage quand presque simultanément Laurent Berger salue un geste du gouvernement, alors que le chef de la section cheminots, Didier Aubert, estime que ce même gouvernement les pousse au rapport de force. Une divergence qui vient assombrir du coup la prévision optimiste affichée dans La Montagne ce matin. La baisse de la mobilisation de la grève et le retour probable de la CFDT à la table des négociations montrent qu'on entre dans une nouvelle phase du conflit. Le Monde, pour sa part, fait un pas en arrière ce matin sur ce dossier et s'interroge sur la réalité de la dette à la SNCF. La compagnie affiche officiellement un trou de 54 milliards d'euros, mais des dizaines de milliards d'euros seraient cachés, selon le quotidien, entre capitaux propres négatifs, engagements hors bilan et autres subtilités comptables qui pourraient coûter très cher d'ici une vingtaine d'années.
Il est aussi question, Emmanuel, de gros sous dans le supplément week-end des Échos.
Autour d'une autre bataille, celle que se livrent les héritiers de Johnny Hallyday. Plusieurs quotidiens comptent les points ce matin. Après la décision du tribunal de Nanterre de geler une partie des biens du chanteur, Laetitia Hallyday remporte une manche, analyse le Figaro avec une tonalité sportive. Avantage, David Elo Laura rétorque le Parisien avec le même champ lexical. Ces deux journaux ne sont pas d'accord et c'est normal, explique-t-on dans le supplément du quotidien économique. La succession de Johnny Hallyday n'est pas qu'un feuilleton people, c'est aussi un dossier juridique exemplaire, un cas d'école. Certes, lit-on dans le courrier Picard ce matin, ce premier pas du tribunal de Nanterre induit l'idée que le droit français n'est pas balayé par le droit américain, mais le chemin sera long d'ici à la décision finale de la justice, rappelle les Échos sur 6 pages, pour qui ce cas de droit international extrêmement pointu et regardé avec attention par les juristes, car les cas d'héritage transnationaux se multiplient. Mais si cette histoire intéresse tant, analyse l'Alsace ce matin, c'est parce que de plus en plus de familles recomposées sans être fortunées s'y retrouvent par bien des côtés. Les révélations publiées au fil des semaines interpellent sur la personnalité d'un artiste dont la carrière s'est construite en France, mais qui a profité de sa résidence en Californie pour y organiser sa succession au profit de sa femme, ce qui est courant là-bas. Tout cela, conclut les éditorialiste, manque cruellement de générosité. Le Figaro revient aussi ce matin sur le mouvement social en cours dans les universités, mais dans ce conflit-là, le quotidien bleu ne fait pas qu'observer. Son éditorialiste prend part à la bataille contre les bloqueurs de la faculté parisienne de Tolbiac. Pour eux, tout est bon à prendre, écrit Laurence de Charette. Ces bloqueurs qui ne parviennent à mettre en lumière qu'un seul fait, le naufrage de l'université face à la massification de l'enseignement. Prise de position également dans le journal L'Union à propos de Notre-Dame-des-Landes. Le quotidien de Reims nous dit ce matin « Il en faut des zadistes, ils sont là pour illustrer les paradoxes de notre société », lit-on sous la plume de Sébastien Lacroix. Leurs utopies sont vieilles comme le monde, mais ils les croient d'avant-garde. Elles n'ont jamais fonctionné, sauf dans les discours, ça ils s'en apercevront plus tard. Les ZAD sont comme des petites bulles, dit-il, qui éclatent à la surface des écrans plats du JT de 20h. Et ça risque d'éclater dès ce soir. L'envoyé spécial de Libération à Notre-Dame-des-Landes, Guillaume Frouin, compte les forces en présence alors que que le week-end sera crucial, dit-il, entre manifestations à Nantes cet après-midi et rassemblements sur le terrain qui devait être dévolu à l'aéroport demain. Le camp des anti-aéroports a été ressoudé par la destruction de la ferme des Sans Noms, une zone qui avait vocation à être régularisée selon les zadistes, qui voient une provocation de la part des autorités, qui n'en démordent pas par la voix de la préfète de Loire-Atlantique. Aucun dossier, affirme-t-elle, aucun dossier de régularisation n'avait été déposé pour cette ferme. Et l'éditorialiste de l'Union, de conclure, les zadistes confortent ceux qui les regardent dans l'idée qu'il vaut mieux être sans illusion devant sa télé que poursuivre un idéal dans la boue. Il ne précise pas si sa sentence s'applique à toutes les batailles.
C'était la revue de presse avec Emmanuel Grabet. Il est 8h37, la météo.